Le journal vous est présenté par Benoît Bouscarel.
Bonjour à toutes et à tous. La trêve à Alep, en Syrie, n'aurait-elle servi qu'à renforcer les capacités militaires de chaque côté des lignes de front? La question se pose depuis la reprise des combats hier soir très violents, comme les bombardements d'ailleurs du régime syrien et de son allié russe. Et le bilan de cette trêve sur le plan humanitaire est tout à fait nul, puisqu'aucun blessé n'a pu être évacué par l'ONU. Par ailleurs, personne parmi les rebelles et les habitants n'a profité des corridors qui avaient été mis en place pour sortir des quartiers assiégés. Toujours en Syrie, après les preuves apportées par un rapport international sur une troisième attaque au chlore perpétrée par le régime de Bachar el-Assad, Jean-Marc Ayrault a réclamé hier l'adoption au Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution prévoyant des sanctions contre les auteurs d'attaques chimiques. En Irak, les forces de sécurité affirment être arrivées à 5 km seulement des faubourgs de la ville de Mossoul et continuer hier à avancer, notamment en pénétrant dans l'ancienne ville chrétienne de Karakoch, la ville de Bartala et ses 37 000 habitants à elle étaient complètement libérés. Une semaine après le début de leur offensive et malgré la diversion lancée par l'organisation État islamique à Kirkouk, les opérations se poursuivent. Elles incluent notamment le très long et très dangereux travail de déminage pendant les combats, mais surtout après le départ des djihadistes. Notre envoyé spécial en Irak, Philippe Randé, a rencontré un démineur kurde.
Lorsque Yushar s'approche de nous avec sa canne, impossible de voir au premier abord qu'il est amputé de ses deux jambes et qu'il porte des prothèses. Sa main droite est recouverte d'un gant pour cacher ses blessures. Ce démineur kurde a été blessé à de multiples reprises par des explosions depuis 20 ans, mais cette guerre, version 2016, contre le groupe État islamique est la plus compliquée.
Ils ont différentes tactiques pour mettre leur explosif. Par exemple, ils piègent les Corans. Ils mettent une chaussure piégée dans le Coran et quand on veut le prendre, il explose. Ils piègent aussi les robinets des lavabos et les portes. Du coup, quand vous ouvrez la maison, la porte explose, la maison s'écroule sur vous. C'est vraiment très dangereux. Après chaque libération de village, les mines sont partout. Les soldats kurdes prennent de gros risques et nos démineurs aussi.
Un peu plus tard, une grosse explosion retentit de la ville chrétienne de Bartala qui vient d'être libérée. Plusieurs démineurs sont morts ces derniers jours autour de Mossoul. Un avant-goût de ce que sera la bataille à l'intérieur de la capitale autoproclamée du califat.
Reportage de Philippe Randé avec Raymond Almoui pour les moyens techniques et la prise de son. Au Yémen, le drame humanitaire se poursuit. Hier, de violents combats ont éclaté entre forces loyalistes et rebelles houthis près de la frontière avec l'Arabie Saoudite. Et malgré les efforts de l'envoyé spécial de l'ONU sur place, la prolongation de la trêve en vigueur depuis 72 heures paraît aujourd'hui bien compromise. La première condamnation définitive contre Mohamed Morsi a été prononcée hier par la Cour de cassation égyptienne pour le meurtre de manifestants lors des mouvements de protestation contre son régime, notamment en 2012. L'ancien président, issu des Frères musulmans, a été condamné à 20 ans de prison, ce qui va raviver les tensions dans le pays, la justice égyptienne étant soupçonnée d'être instrumentalisée par le pouvoir en place. Au Caire, François Umferkataji.
Depuis sa destitution il y a 3 ans, Mohamed Morsi est en prison. Il pourrait y passer 17 ans de plus. La peine que la justice égyptienne vient de lui infliger est incompressible. 7 autres cadres frères musulmans ont écopé de cette sentence. Le président égyptien avait été condamné l'année dernière pour sa responsabilité dans des affrontements meurtriers à l'extérieur du palais présidentiel. La Cour de cassation devra prochainement se prononcer sur des jugements rendus dans 2 autres affaires et dans lesquelles l'ancien président est condamné à la peine de mort et à la prison à perpétuité. Les chances de négociation entre les frères musulmans et le pouvoir égyptien pour obtenir la libération de l'ancien président sont donc nulles pour le moment. L'Égypte de l'ex-maréchal Sissi ne poursuit qu'un seul but, anéantir définitivement la confrérie. Et pour cela, elle s'appuie sur le pouvoir judiciaire, car au-delà du cas Morsi, ce sont plus de 40 000 personnes qui sont en prison en Égypte en raison de leur idée politique. Les juges trop indépendants sont immédiatement sanctionnés. Une récente enquête de Reuters raconte comment 75 juges, au lendemain de la prise de pouvoir par Sissi, se sont réunis pour demander un retour de la démocratie et de l'indépendance judiciaire. Depuis, la moitié d'entre eux ont été licenciés ou mis à la retraite prématurément. Répression et violence semblent aller de pair en Égypte. Hier, un général de l'armée a été tué par une rafale d'armes automatiques en sortant de son domicile au Caire. L'organisation Brigade de la Révolution a revendiqué l'opération et a expliqué avoir voulu venger la mort d'un responsable frère musulman, tué quelques semaines auparavant par la police égyptienne.
En France, attention au risque d'explosion de la gauche l'an prochain au moment de la présidentielle et des législatives. C'est Manuel Valls qui a lancé l'alerte hier. En meeting à Tours, le Premier ministre s'est posé en rassembleur de la gauche sans laisser entendre clairement qu'il pourrait être un recours en cas de non-candidature de François Hollande. La gauche, a expliqué Manuel Valls, pourrait être pulvérisée si une convergence ne s'opère pas d'ici là. La primaire est un peu là pour ça et depuis hier, il y a justement une nouvelle candidature à cette primaire de gauche, celle de François de Rugy qui a été officialisée hier. Le président du parti écologiste veut tenter de peser face à ses rivaux déjà déclarés, Montebourg, Hamon, Lindemann, Filoche et Benamias. François de Rugy veut lutter contre la tentation de la régression en France, c'est ce qu'il a expliqué à Antoine Poitot.
Je suis candidat à la primaire de la gauche parce que je veux réagir à un contexte. C'est ce que j'appelle la tentation de la régression. En France, ça se manifeste notamment par les résultats du Front National, mais aussi la campagne de Nicolas Sarkozy dans la primaire de la droite. Face à cette tentation de la régression, moi je crois qu'il faut que la gauche défende le progrès. Et pour moi, le progrès, c'est l'écologie. Et puis par ailleurs, une primaire, ça sert aussi à désigner un candidat, une candidate. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas un candidat naturel de rassemblement de la gauche et des écologistes qui s'imposent. Donc c'est aussi pour cela que je suis candidat à la primaire de la gauche. Mais je crois que si on fait un bilan aussi objectif que possible sur le mandat de François Hollande, il faut reconnaître qu'il y a eu des avancées. Il y a eu la COP21, l'accord de Paris, il a fallu le négocier, il a fallu le signer, il a fallu le ratifier. Et cet accord de Paris sur le climat, c'est un acquis. Il y a eu la loi sur la transition énergétique, il y a eu la loi sur la biodiversité. Et puis en même temps, on voit bien qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels il y a eu le sentiment que des choses n'ont été faites qu'à moitié, ou alors ont été reportées. Et sur la transition énergétique, malheureusement, je vois que lorsqu'il s'agit de passer à l'application, à l'action, on a tendance à reporter à plus tard. La centrale de Fessenheim n'est toujours pas fermée, par exemple. Et ça, c'est des éléments de bilan sur lesquels il faut aussi porter un regard critique et lucide.
Des pluies dans le sud ce matin, sur la façade ouest et également sur l'Île-de-France, possiblement. Ailleurs, le temps sera souvent perturbé. Les températures 16 degrés pour les maximales dans la moitié nord, de 20 à 24 degrés sur le sud.